quand je suis arrivée au musée d'histoire vivante, j'ai trouvé beaucoup de manuscrits de Louise Michel qui n'étaient pas connus et qui n'avaient pas été travaillés par les historiens, sauf par Edith Thomas, chartiste et biographe de Louise Michel en 1971, qui reste sans doute la biographie la plus complète qui a été faite sur Louise Michel, même si il y a beaucoup de choses qui ont été travaillées depuis, en particulier comme grande spécialiste de Louise Michel, je citerai Xavier Gauthier, qui a travaillé 10 ans à rassembler la correspondance de Louise Michel, et c'est pas un mince travail, et elle retrouve encore toujours des choses, il y a toujours des choses qui ressortent sur Louise Michel, puisqu'elle a écrit beaucoup. Donc il y a des choses à Montreuil, il y a des choses à la bibliothèque Marguerite Durand aussi, où Xavier a beaucoup travaillé. Donc il y a eu une période où, avec Xavier Gauthier, on avait conduit un groupe pour éditer des manuscrits inconnus de Louise Michel ou qui n'étaient plus trouvables, etc. Donc il y avait eu ce groupe de travail dans les années 2000, où on s'est retrouvé à plusieurs, soutenus à l'époque par le laboratoire Lire de Lyon 2 et Philippe Régnier, qui est un spécialiste des Saint-Simoniens. Et dans ce groupe de travail, il y avait également Claude Retta, qui est directrice de recherche au CNRS aujourd'hui. Et Claude Retta est aujourd'hui, je pense, aussi avec Xavier et moi peut-être, les trois à avoir travaillé le plus sur Louise Michel. Là, je peux vous dire que Claude Retta travaille à l'édition de 2 nouveaux livres, dont elle ne veut pas encore tout me dévoiler, mais je sais que ce sera pour mars et avril. Donc je vous conseille ces ouvrages si vous êtes intéressé par Louise Michel, qui, comme disait le monsieur qui est là, Louise Michel fédère. Et pour le coup, peut-être que j'aurai rien de particulier à vous apprendre ce soir sur elle, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de choses écrites et dites sur elle. Elle-même a beaucoup travaillé à sa postérité, voire à son hagiographie. Donc parfois, il y a peut-être des choses un petit peu qu'il faut bousculer, des idées données de Louise Michel, que ce soit même ses caricatures, et la façon dont les gens se sont revendiqués d'elle. Donc Louise Michel fédère, et justement, je voulais commencer par signaler un article qui est paru dans Le Monde en août 2015, deux journalistes, Luc Brenner et le second, je ne me souviens plus de son nom, s'étaient livrés à une enquête portant sur le nom de baptême de plus de 67 000 écoles, collèges et lycées français pour repérer quelles étaient les appellations qui rendaient hommage donc aux grands noms, comme on dit, de l'histoire de France, de la littérature, des sciences, etc., aussi l'histoire politique. Donc en se disant qu'effectivement, le nom des personnes choisies pour baptiser un collège, une école ou un lycée raconte aussi l'histoire du pays et quelles sont les personnes que la République veut célébrer. Ils ont travaillé donc à faire une base de données de ces 67 000 écoles. Ils ont donc établi un palmarès des noms d'établissements. Donc bien évidemment, en tête hors catégorie, Jules Ferry, avec 682 établissements, suivi de Jacques Prévert, de Jean Moulin, de Jean Jaurès. Et comme on peut s'en douter, sur les 30 noms donnés le plus couramment, il n'y a que 7 femmes qui se distinguent. Et encore faut-il les départager en 2 groupes, ces 7 femmes, puisque leur étude portait également sur les établissements privés. Et que la première femme qui apparaît dans le classement apparaît en 5e position. Il s'agit de Jeanne d'Arc, puisque en l'occurrence, c'est des noms d'écoles privées sous contrat. Après Jeanne d'Arc, en 6e position, il y a Antoine de Saint-Exupéry, suivi donc en 7e position de 377 établissements privés baptisés Sainte-Marie. Et Victor Hugo, par exemple, n'arrive qu'en 8e position après Jeanne d'Arc et Sainte-Marie. Après Victor Hugo, il y a Louis Pasteur, Marie Curie et d'autres noms de femmes qui apparaissent dans le palmarès, plutôt des femmes donc, qui désignent des écoles privées. Donc il y a Sainte-Thérèse, Sainte-Anne, puis après Sainte-Anne, Irène Joliot-Curie. Et en 26e position parmi les 30, donc Louise Michel, pour 190 établissements sur ces 67 000. C'est intéressant de se pencher, enfin ils l'ont fait, oui d'ailleurs, sur la toponymie, c'est-à-dire savoir où sont ces écoles Louise Michel, si c'est plus effectivement dans les villes qui ont été de gauche ou dites de gauche, etc. Voir aussi que c'est plutôt un nom de baptême donné aux écoles primaires et aux collèges, plus qu'au lycée. J'en profite aussi, puisqu'on parle du nom des collèges aussi, pour vous signaler le fait qu'effectivement le nom de Louise Michel dit quelque chose à l'oreille des gens. Aussi pour rappeler que sur 302 stations de métro, il y a 4 stations de métro qui portent des noms de femmes. Donc Marie Curie, Marguerite de Rochechouart de Montpipeau, en fait, c'est l'abbesse Rochechouart, qui est une abbesse de Montmartre, et Simone Veil depuis 2018, donc, et Louise Michel. Donc la raison pour laquelle, en tout cas, Louise Michel fédère autant, bon, alors pour les écoles, l'évidence est qu'elle a exercé donc la profession d'institutrice, et en fait, elle a exercé la profession d'institutrice pendant 22 ans, à savoir de 1851 à 1871. Puis en 1879, encore pas l'année entière, et en 1891. Donc voilà en guise d'introduction, et après je voudrais effectivement revenir après coup sur l'intitulé qu'on avait prévu, hein, Louise Michel, éducatrice ou l'école de la révolte. Il était question donc en fait de parler des pratiques de Louise Michel, institutrice. Or, du coup, je me suis repenchée dans ses mémoires et dans d'autres textes ou témoignages, et en fait, il y a assez peu de choses sur sa pratique technique. Ben pour le coup, je me retrouve plus à faire par le biais de sa psychobiographie. C'est ce que j'ai privilégié. Donc, pour essayer de comprendre quel type d'institutrice Louise Michel a été appelée à devenir à partir de sa propre existence. À savoir donc que c'est en 1850 que tout commence pour elle. Puisque donc la jeune femme à l'époque est âgée de 20 ans et elle décide de devenir institutrice. Alors, somme toute, en 1850, la décision est peu banale pour une jeune femme à l'époque et est motivée par différentes raisons. Tout d'abord, il faut rappeler que Louise Michel est née bâtarde, comme on dit, dans un château délabré donc, où sa mère était domestique et avait été placée depuis son adolescence. Donc il est vraisemblable que sa mère, Marianne, se soit retrouvée enceinte de Laurent de Maïs, qui était le fils de la famille, qui avait à peu près le même âge que Marianne, sa mère. Donc la domestique engrossée, il s'en suivit étonnamment non pas le départ de la domestique, comme ça aurait sans doute été le cas chez la plupart des patrons de l'époque, hein, qui auraient tendance à chasser la bonne qui a été engrossée par le fils de la famille. Donc ce n'est pas Marianne Michel qui va partir du château, mais le fils. Donc, Louise Michel raconte une dispute familiale enfant. Il est de nouveau question de cet épisode. Le fils de Maïs semble avoir été tenu pour responsable par ses parents. C'est lui qui part de la maison. Bon, il va se marier par la suite et avoir deux enfants. Également Laurent de Maïs, une sœur qui s'appelle Agathe, qui elle aussi a eu un fils, Jules, qui est donc le cousin de Louise Michel, dont elle était très proche enfant, et j'y reviendrai justement sur leur éducation et leur relation. Donc on peut dire que pour Louise Michel, en fait, bien que fille bâtarde et illégitime, jusqu'à son adolescence, tout allait entre guillemets bien, et que les choses se sont compliquées après la mort en 1845, de Charles-Étienne de Maïs, qui était donc son grand-père, et la mort de Charlotte, sa grand-mère, en 1850. Louise Michel, donc bâtarde, effectivement, n'avait pas été reconnue comme une de Maïs. Elle va se retrouver à cette époque donc confrontée à sa condition de fille illégitime. Elle n'a aucun droit sur l'héritage, qui revient à sa tante Agathe, puisque Laurent de Maïs, son père supposé, est mort lui aussi entre 1845 et 1850. Donc, Louise Michel, effectivement, avait été élevée avec l'affection et l'attention de Charles-Étienne de Maïs et de Charlotte, et aussi, bien évidemment, de sa mère. Et donc, Louise Michel appelait les de Maïs grand-père et grand-mère. Ce ne sont pas de riches châtelains. Alors, De Maïs, au départ, c'était en deux noms. De plus loin Maïs, et pendant la Révolution, ils ont accolé le De et le Maïs. Son grand-père, lui, était républicain et voltairien. Et ils ont effectivement élevé Louise comme leur propre petite fille. Donc, son enfance fut atypique, eu égard aux circonstances de sa naissance. Elle raconte d'ailleurs que sa tante Agathe reprochait à ses parents de donner à la petite Louise une éducation qui ne correspondait pas à sa condition réelle. Louise Michel raconte donc comment l'éducation que lui ont donnée les de Maïs était propre à éveiller sa pensée, mais aussi sa liberté. Alors pour commencer, Louise Michel allait à l'école du village tous les jours, ce qui est dans les années 1830-1840 n'est pas donné à tous, mais surtout à toutes. Les deux Maïs, qui étaient gagnés aux idéaux républicains, étaient de grands lecteurs, possédaient une bibliothèque dans laquelle donc Louise Michel pouvait puiser sur les conseils de son grand-père. Et avant l'âge de 10 ans, elle commence à lire Bossuet, Molière, Voltaire, Lamartine et Hugo. Elle raconte qu'avec son cousin Jules, elle écrivait et jouait des petites pièces de théâtre sur la Révolution et que les enfants étaient donc encouragés et conseillés par leur grand-père. Quant à Charlotte de Maïs, sa grand-mère, donc sa grand-mère va lui apprendre à versifier, à jouer du piano, à écrire des nouvelles, etc. Donc voilà une éducation entre guillemets peu banale d'une part pour une petite fille de cette époque, hein, née en 1830, vu sa condition encore moins banale. Et d'un autre côté, donc Louise Michel a pu jouir d'une grande liberté en Haute-Marne. Et elle raconte qu'elle pouvait grimper aux arbres, observer les animaux, qu'elle était passionnée par les fleurs, marquée par les saisons très rudes en Haute-Marne, etc. Et elle va développer un fort imaginaire, bercé aussi vraisemblablement par les contes et légendes que lui raconte sa grand-mère au coin de la cheminée. Donc autant dire une enfance heureuse, hein, baignée par l'amour de ses grands-parents et de sa mère, domestique, qui elle n'était pas lettrée, mais qui était une fervente croyante. En tout cas, voilà le récit que fait Louise Michel de ses premières années, puisque, je le disais tout à l'heure, nous n'avons d'autres témoignages que le sien, qu'elle a raconté dans ses mémoires. Là où, par exemple, le travail, effectivement, de Xavier Gautier, qui a travaillé sur sa correspondance, était très important, c'est aussi dans la correspondance, il y a des choses qui ne sont pas faites pour être dites, alors que dans ses mémoires, on écrit ce qu'on veut, surtout quand il n'y a pas de témoins pour contredire les choses. Bon, mais en tout cas, ses premières années semblent heureuses, au moins jusqu'à la mort donc, de son grand-père Charles-Étienne en 1845. Donc elle a 15 ans, et elle est inconsolable, et elle pense même a priori à un moment consacrer sa vie à Dieu, parce qu'à l'époque elle était très croyante, chose qu'elle va taire dans ses mémoires, puisqu'au moment où elle écrit ses mémoires, c'est devenu la Louise Michel anarchiste, etc. Or, entre guillemets, il n'y a pas de honte à ça. Elle est aussi issue du christianisme social et à l'époque, elle est effectivement très croyante, mystique, etc. Donc elle va commencer à écrire dans les années 1845-47 de longs poèmes, en particulier après la mort de Laurent de Maïs, où justement il y a eu une dispute familiale qui éclate. Et donc pendant un moment, elle ne va plus savoir si Laurent de Maïs est son père ou si c'est celui qu'elle appelle son grand-père qui était peut-être son père. En tout cas, ça va être créer un trouble chez elle. Elle va écrire des poèmes et elle va commencer à les envoyer à Victor Hugo. Donc Victor Hugo en 1847, c'est déjà un monument. Hugo donc va répondre à la jeune fille et même l'encourager à écrire. Une relation, enfin un lien qui se met en place qui sera très fort. Nous n'avons malheureusement pas les lettres que Victor Hugo a écrites à Louise Michel, qui ont été perdues lors de ses pérégrinations. En revanche, place des Vosges, il y a un certain nombre de lettres que Louise Michel a écrites à Victor Hugo, qui permettent de montrer quelle était la force de ce lien pour elle à coup sûr. Après la mort de son grand-père et avant celle de sa grand-mère, donc Louise Michel a 18 ans, et sa mère et sa grand-mère vont penser à la marier, ce qui est somme toute, comment dire, le seul avenir raisonnable pour une jeune fille de l'époque, bâtarde de surcroît. Donc elle raconte qu'elle a eu deux prétendants qu'elle a repoussés, puisqu'elle refusait, a priori, de se marier. Donc elle va aider sa grand-mère Charlotte jusqu'en 1850 en donnant des leçons de piano avec elle et en publiant aussi donc, dans la presse son premier poème, dans l'écho de Haute-Marne, et elle va publier ce poème sous le nom de Louise de Maïs. Mais à la mort de sa grand-mère, donc je vous le disais tout à l'heure, ça va un petit peu compliquer la donne, puisque elle ne peut pas prétendre au nom de Maïs, ni même à l'héritage, même si ses grands-parents avaient prévu de lui léguer des terres pour une valeur de 8 à 10 000 francs de l'époque. Louise Michel est mineure à l'époque, donc elle avait des tuteurs pour gérer cette somme. Elle et sa mère donc vont être contraintes de quitter le château, ce qu'elle appelait mon nid de Vroncourt, qui va être mis en vente donc par sa tante Agathe. Elle traverse de nouveau une crise de désespoir. À cette période, elle continue toujours à écrire à Victor Hugo, qu'elle appelle son maître. je la cite, elle lui écrit de sa nuit, le titre qu'avait choisi Xavier Gautier pour publier sa correspondance. Donc elle lui écrit de sa nuit, elle lui dit que en ces instants de découragement, elle doute de tout excepté de lui. Elle lui écrit « N'êtes-vous pas un frère pour moi, Hugo ? Et plus qu'un frère, car nous n'avons qu'une âme. » Et elle lui déclare « C'est du bonheur de se réfugier en vous comme dans un autre monde. » Donc on voit que cette jeune femme, qui était jusqu'alors plutôt privilégiée, va devoir s'assumer, elle, mais aussi sa mère. Et comme je le disais, elle est trop libre et trop lettrée pour imaginer se faire une fin et se marier comme la bienséance l'exigeait le plus souvent. Elle rêve pendant un moment à cette époque de vivre de sa plume, mais d'une part, elle n'a pas encore assez écrit, et d'autre part, c'est une activité difficile pour une femme. Et pour le coup, donc, le métier d'institutrice peut sembler constituer un pis-aller respectable et respecté. Je ne sais pas si c'était réellement une vocation, mais en tout cas, c'était une possibilité qui semblait la plus à même de la satisfaire. Alors, le métier d'institutrice et d'instituteur est très réglementé à l'époque. Donc évidemment, ce n'est pas les lois Jules Ferry, mais avant Jules Ferry, il y a quand même une école en France. Donc c'est un métier qui était réglementé par la loi Guizot en juin 1833, qui lui avait souhaité mettre en place un premier service public d'instruction primaire, au moins, avec des corps d'instituteurs communaux. L'école n'était pas obligatoire, elle était réservée aux garçons, puis ouverte aux filles à partir de 1836. Et donc, il revenait aux communes la responsabilité de prévoir l'enseignement des enfants, y compris des enfants pauvres, sur leur territoire. Et même chaque commune de plus de 300 habitants était tenue d'avoir une école primaire ou de subventionner une école confessionnelle. Donc, pour devenir instituteur ou institutrice, il fallait se préparer pour entrer dans une école normale. On va dire que c'est exactement le même système qu'aujourd'hui qui a été mis en place par les lois Guizot. Même si la première école normale pour femmes n'ouvre qu'en 1838, soit 5 ans après le vote de la loi. Et après, donc, il fallait se présenter pour avoir un brevet de capacité qui était donc délivré après un examen. Donc va commencer pour Louise Michel le temps des études. En 1851, elle va ainsi passer 3 mois dans une institution pour jeunes filles à Lagny, où vivait la sœur de sa mère. C'est aussi l'année où elle se rend pour la première fois à Paris, dans l'espoir de pouvoir y faire des études, mais bien évidemment, c'est aussi des études qui coûtent cher, quoi qu'il en soit. Et c'est aussi d'ailleurs à cette occasion qu'elle va rencontrer, donc en 1851, Victor Hugo, pour la première fois, et pas la dernière, mais presque, puisqu'ils se rencontrent 2 fois, je crois, en tout. Donc ses études à Paris auraient été un peu trop onéreuses, et à l'époque, elle ne souhaite pas se séparer de sa mère, et réciproquement d'ailleurs. Donc elles se retournent toutes les deux en Haute-Marne, et Louise Michel va suivre à Chaumont des cours normaux pour devenir institutrice dans un pensionnat tenu par 2 femmes. Pour avoir une idée, en 1850, il n'existait que 10 écoles normales féminines sur tout le territoire, ce qui est très peu, mais 32 cours normaux qui préparaient au brevet de capacité. Donc, pour Louise Michel, cette préparation impliquait donc d'apprendre le programme imposé, qui était composé d'instruction morale et religieuse, de lecture, écriture, éléments de la langue française, calcul, du système légal des poids et mesures. Un programme qui lui semblait sans doute trop étriqué, puisque je vous dis, elle avait effectivement un esprit assez débordant d'imagination et fantasque. Bien qu'elle suive les cours, elle va continuer à écrire et à rimer à côté, faire des poèmes, et elle va obtenir son diplôme en septembre 1852. Elle va alors demander à ouvrir une école dans le village d'Audeloncourt, où vit sa mère chez une de ses sœurs. Et donc le maire va délivrer le certificat nécessaire en ces termes, le certificat qui est cité par Edith Thomas, qui est allé donc le consulter aux archives départementales de Haute-Marne. Donc Louise Michel, munie d'un brevet de capacité pour l'enseignement primaire, nous a fait la déclaration suivante accompagnée des pièces voulues par la loi, dans l'intention d'ouvrir ici une école libre de jeunes filles, dans la maison Causel rue du Ham, et son école sera reconnue en préfecture le 28 octobre 1852. Alors là aussi, nous disposons, ce que je disais tout à l'heure, que de son récit et de quelques rares pièces d'archives conservées aux archives départementales de Haute-Marne pour tenter de mesurer ce que furent ses premières années d'enseignement. Par exemple, elle raconte avoir créé une école libre afin de ne pas prêter serment à l'Empire, hein, on est en 1852. Édith Thomas, donc, qui a rédigé cette biographie dans les années 70, signifie, et je suis d'accord avec Édith Thomas plutôt, qu'à l'époque, les sentiments républicains de Louise Michel, elle est sans doute républicaine, mais elle n'est pas une républicaine très virulente, comme le prouvent justement les poèmes qu'elle publie à l'époque. Elle appartient plus au christianisme social qu'elle ne serait, on dirait, partisane de la montagne. Tout cela n'enlève rien à ce qu'elle fut, mais je reste persuadée que ses mémoires, et plus encore un autre récit qui s'appelle « Voyage et aventure de ma vie », on sait que c'est pas elle qui l'a écrit, mais un journaliste, elle a su, dans les années 1880, réécrire un petit peu son histoire. Je ne l'en veux pas, je pense que beaucoup de gens font ça, et que voilà, elle a peut-être un peu enjolivé. Certains disent que, en fait, là, j'avais moi eu une discussion avec le conservateur des AD de Haute-Marne. Lui me disait que non, elle n'avait jamais eu son diplôme, en fait, et que c'est la raison pour laquelle elle avait ouvert une école libre, c'est qu'en fait, elle n'avait pas le choix. Alors, je ne suis pas allée vérifier ce qu'avait vu Édith Thomas. En tout cas, elle ouvre cette école libre, une école privée. Elle raconte ainsi donc qu'elle faisait chanter la Marseillaise à ses enfants qui sont des petites filles. Hein. Ce n'est pas une école mixte. Donc on est dans les années 1852-53. Donc elle faisait chanter la Marseillaise, qui est un chant séditieux, juste après la proclamation de l'Empire. Malgré tout, alors là je cite aussi... des archives que sont allées consulter Édith Thomas, l'inspecteur des écoles primaires écrit dans un de ses rapports que cette jeune personne mérite l'estime des honnêtes gens et que son école se distingue ni en bien ni en mal. Alors, Louise Michel raconte aussi qu'elle a été dénoncée par des parents inquiets de ses idées républicaines et que de ce fait, elle a été convoquée par le recteur de l'académie du département. Et donc, le recteur Fayet va convoquer Louise Michel, et contre toute attente, en fait, ils vont sympathiser. Le recteur va parler dans un témoignage tardif, hein, de 1883, il va parler de ses allures peu cavalières mais franches, toujours convenables. Il parle de Louise Michel en disant « la bonhomie avec laquelle elle avouait ses travers et même ses fautes aurait désarmé ses auditeurs beaucoup moins veillants que nous ». Louise Michel, au bout du compte, va se retrouver alliée avec le recteur de l'académie et avec sa femme. Elle va poursuivre donc son enseignement en Haute-Marne, donc à Audeloncourt, après à Millières, à moins de 10 km. Dans ses mémoires, elle raconte aussi que, toujours durant cette période, donc, sa mère souhaitait l'avoir mariée et qu'elle résistait tant bien que mal. Et donc c'est la période où elle commence effectivement à rêver d'indépendance et d'une vie plus libre, en mouvement. C'est aussi la période où elle s'intéresse de plus en plus à la politique, dans une période donc où les proscrits et les bannis sont nombreux, à l'image d'Hugo. Hein. Après juin 1848, il y a environ 15 000 personnes arrêtées, il y en a 11 000 qui sont inculpées. Alors au fur et à mesure, le nombre va baisser, il va y avoir des grâces. Et en décembre 1851, il y a 26 000 personnes qui vont être arrêtées aussi. Donc pour vous donner la mesure, et je sais, quand on lit la presse de l'époque, hein, de 1848 à 1851, l'opposition politique est particulièrement malmenée. Et les proscrits vont éveiller chez Louise Michel un vif intérêt. Ces proscrits qui, pour les uns, avaient espéré une république démocratique et sociale pour ceux de 48, et pour ceux de 51, avaient combattu Napoléon le Petit. Alors Louise Michel raconte justement, donc, dans cette période, avoir écrit une histoire de martyr qui était publiée dans la presse. Son histoire commençait ainsi. Dominicien régnait. Il avait banni de Rome les philosophes, les savants, augmenté la solde des prétoriens, rétabli les jeux capitolins, et l'on adorait le clément empereur en attendant qu'on le poignardât. Je pense que Claude Rétat est en train de travailler justement pour mettre en relation ce qu'elle dit dans ses mémoires et voir vraiment ce qu'on peut vérifier dans les journaux de l'époque, parce que c'est important. Donc, en tout cas, Louise Michel raconte que ces lignes publiées ont été interprétées par le préfet comme un appel à tuer Napoléon III. Effectivement, ça peut lui ressembler. Elle a été convoquée, le préfet lui signalant que si elle récidivait dans ses écrits, elle pourrait se retrouver en Guyane. Je vous rappelle pour mémoire qu'effectivement, il y a des déportés de 48 qui, après l'Algérie, sont partis en Guyane, des transportés de 1851, comme de l'Écluse, par exemple. Charles de l'Écluse, avant la Commune de Paris, lui, il a été déporté en 1851, dont en Guyane. Donc voilà, elle est menacée d'être envoyée en Guyane et elle raconte avoir répondu au préfet « Eh bien, écoutez, envoyez-moi en Guyane et j'ouvrirai une maison d'éducation pour ceux qui s'y trouvent. » Donc voilà un petit peu Louise Michel, qui est aussi souvent dans la provocation. Et ça, en revanche, est un trait de caractère peu que retrouver, puisqu'on le retrouvera en 1871 pendant son procès. Voilà, la jeune femme a envie d'aller à Paris. Et le recteur Fayet va accepter de la recommander dans une école parisienne. Donc elle va partir quelques mois, puis revenir parce que sa mère est malade, etc. Et elle ouvre encore une école libre en Haute-Marne en 1855 avec Julie Longchamp. Il va falloir, en fait, pour qu'elle puisse réaliser son rêve et partir à Paris, attendre encore 2 ans. Donc elle va se retrouver à Paris en 1857. Le recteur Fayet va la recommander une seconde fois auprès d'une inspectrice parisienne et elle va donc être sous-maîtresse dans une pension pour jeunes filles qui est rue du Château d'Eau à Paris. C'est un peu la période à nous Paris pour Louise Michel. Elle écrit « On était un peu bohème ». C'est qu'elle dilapide son maigre salaire toujours dans l'achat de livres, où elle fait des dons aux plus défavorisés qu'elle croise dans la rue, etc. Donc c'est vrai que c'est une période féconde pour elle. Mais pas que pour elle, hein. Ce Paris des années 1860 est en mouvement. On est sous le Second Empire, une période libérale, on va dire, hein, 1860. Ils viennent d'être amnistiés justement par décret les insurgés de juin et les proscrits de 1851. Donc les opposants républicains sont nombreux, connus, en mouvement, parfois inquiétés, voire emprisonnés à Sainte-Pélagie ou autre, ou soumis à la censure. Donc voilà, ce Paris qui bouillonne de jeunes gens, étudiants, artisans, autodidactes des années 1860, qui sont donc des futurs communards, qui sont donc des blanquistes à l'époque, des proudhoniens, etc. Et elle va multiplier les rencontres. Hein. C'est à cette période qu'elle rencontre Théophile Ferré, par exemple, qu'elle connaît donc avant la Commune, ou encore Adèle Esquiros, qui était institutrice également, et poétesse, et qui était à l'époque séparée d'Alphonse Esquiros, dont la lecture avait fortement marqué Louise Michel quand elle était jeune. Elle se lie donc petit à petit au mouvement républicain, socialiste, blanquiste, etc. Et la question sociale et la question politique se rejoignent. Elle s'inscrit au cours d'instruction populaire de la rue Hautefeuille. Donc c'est à Odéon, hein, la rue Hautefeuille existe toujours. Donc c'est des cours qui sont organisés par des républicains, hein, comme Jules Favre, Pelletan, Jules Simon à l'époque, qui a été destiné à instruire ceux qui, après leur journée de travail, voulaient venir apprendre. Et donc Louise Michel raconte que parmi leur public, il y a donc des institutrices. Elle les décrit, et elle se décrit elle-même, comme avide de ce savoir dont les femmes ont été privées. Donc ces cours, en plus, commencent à 10h du soir, donc c'est une grosse journée. Et Louise Michel est éclectique, elle s'intéresse à tout, ça c'est vrai. Je pense à Claude Retta qui prépare une publication de Louise Michel, avait entrepris d'écrire une encyclopédie dont on n'a que des bribes manuscrites et on essaye de trouver un sens à tout ça. Donc elle s'intéresse à tout, hein, genre l'électricité, la vapeur, les sciences, le darwinisme, la mythologie, les mathématiques. Et en 1861, donc elle a 31 ans, 1861 c'est l'année où Julie Daubier se distingue comme première bachelière, Louise Michel va publier à compte d'auteur une brochure qui s'appelle « Lueur dans l'ombre, plus d'idiots, plus de fous ». Donc c'est une brochure qui se veut être un essai de pédagogie et de thérapeutique, puisqu'on peut considérer que comme institutrice, hein, Louise Michel avait sans doute eu l'occasion donc de rencontrer des enfants attardés, livrés à eux-mêmes, etc., qui ont vraisemblablement éveillé un fort sentiment de compassion. Et donc ce petit texte est donc une brochure sous forme de 11 pages, hein, qui est bien signée de son nom, qui est à la BNF aujourd'hui, je n'ai jamais trouvé ailleurs. Mais Louise Michel signale que en fait, cette petite brochure n'est qu'un extrait d'un ouvrage qu'elle a écrit ou qu'elle est en train d'écrire, d'un ouvrage donc beaucoup plus large, dont justement j'ai retrouvé un morceau au musée de l'histoire vivante quand je suis arrivée pour gérer les collections, donc d'un livre qui s'appelait « Le livre d'Hermann », qui raconte l'histoire d'un jeune poète devenu fou. Donc Louise Michel s'intéresse à l'époque donc à la façon de prendre en charge les fous, mais aussi les idiots, les criminels, etc. C'est aussi donc en institutrice en fait hein, qu'elle conseille une approche pédagogique qui n'est contraire en rien donc aux autres méthodes. Et donc elle conseille l'apprentissage de la lecture, mais aussi du chant, de la musique. Et elle dit que effectivement tout est bon quand il s'agit d'éveiller les esprits léthargiques. Donc voilà la Louise Michel des années 1860. Il y a un manuscrit qu'elle évoque dans ces années-là qui s'appellerait « La sagesse d'un fou » qui n'a pas été retrouvée. Et elle raconte que Jeanne Pelletan lui aurait dit « Non, ce n'est pas la sagesse d'un fou, ce sera un jour la sagesse des peuples ». Le texte, en tout cas, « Lueur dans l'ombre », plus d'idiot, plus de fou, donc daté de 1861, ouvre par un poème où, je vous disais tout à l'heure, on peut lire toute sa ferveur. Le texte commence ainsi « Ayons la foi, ouvrez un peu moins les prisons et un peu plus l'évangile, car Dieu est la raison de tout. » Et elle précise « Je suis de ceux qui vont, Seigneur, en ta présence. » Elle dit aussi que donc la seule arme susceptible de terrasser ces trois spectres, folie, misère, vice dégradant, donc elle dit qu'il faut effectivement pour cela être dévoué et avoir la foi. Elle dit aussi donc que pour amoindrir les stigmates de l'idiotie, sous le regard de Dieu, dit-elle, elle propose une pédagogie qui consiste à s'adresser aux idiots comme on le fera avec des enfants. Donc elle dit que la patience et le dévouement sont indispensables. Et c'est là où elle est toujours étonnante. Elle dit quitte à le céder de la phrénologie ou du magnétisme. Voilà la Louise Michel de 1861, on va dire partagée. À l'époque, c'est vrai qu'on est quand même encore. Enfin, c'est encore le christianisme social. C'est étonnant sans l'être. Presque le plus étonnant, c'est qu'elle ait voulu le taire, etc. Alors que ce n'était pas honteux en l'occurrence, mais dans les années 1890, c'était plus difficile. Donc jusqu'aux années 1865, elle se cherche, elle découvre, et après elle va effectivement s'affirmer, donc en combattant pour la défense des femmes, de l'enfance, des hommes, mais aussi la défense de la nature et des animaux. C'est aussi intéressant parce que la Société protectrice des animaux, donc la SPA, est fondée en 1845 par le docteur Parizet. Et Louise Michel va être toujours très proche de cette Société protectrice des animaux. Alors c'est vrai que maintenant on dit SPA, on voit tout de suite, mais voilà, c'est aussi dans l'air du temps que de protéger les animaux. Et Louise Michel fait partie de ces protecteurs et protectrices des animaux. C'est aussi une période où sa révolte croît. Donc elle était effectivement déjà révoltée par la misère paysanne qu'elle avait pu voir en Haute-Marne. Elle se sentait solidaire même si elle était à l'abri. Et elle n'est pas moins révoltée donc à Paris où la révolte ouvrière est un fait. En particulier, elle va prendre fait et cause pour les filles mères, les femmes abandonnées, les ouvrières qui sont aussi obligées de se prostituer pour survivre. Et en tant qu'institutrice, une chose est sûre, c'est qu'elle est très sensible au contenu de l'enseignement qui est censé différer selon les sexes. L'éducation prévue pour les filles n'est pas la même que pour les garçons. Les filles doivent être aussi formées aux travaux manuels afin donc de les préparer à la vie domestique. Et on peut imaginer que, de fait, cela gênait Louise Michel, qui pour autant est une grande brodeuse devant l'éternel. Hein, en Nouvelle-Calédonie, elle brode. Elle va donc, elle, personnellement, fréquenter le groupe du droit des femmes animé par Madame Jules Simon, par André Léo et Maria Derem. Et elle va aussi se rapprocher de l'école professionnelle gratuite de la rue Thévenot, qui est aujourd'hui au niveau de la rue Réaumur. Et elle va être chargée de cours de dessin, de littérature et de géographie. Alors, c'est vrai que Louise Michel faisait des dessins qui sont, on va dire, comme